Salut Mélissa, comment ça va?
Salut Sandrine, ça va et toi?
Bah ouais, super. Bon, aujourd'hui, ce soir plutôt, puisqu'on enregistre, il est un peu tard. Quel est le thème de l'enregistrement?
Alors aujourd'hui, on va parler en présence de nos invités des freins et des motivations à entreprendre.
Donc, welcome Lara.
Merci.
Bonjour.
Welcome Daniel.
Bonsoir, merci de l'invitation.
Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter?
Oui, tout à fait. Donc moi, Clara Trouchet, j'ai créé ma société en septembre dernier, donc c'est tout récent. Je suis consultante en RSE, donc en responsabilité sociétale des entreprises. Donc j'accompagne les entreprises à mettre en place leur démarche RSE et donc à tendre vers un modèle d'affaires plus vertueux envers la société dans sa globalité, qu'il s'agisse du social, des humains et de la planète.
Tout un programme. C'est dans l'air du temps en plus.
Complètement.
Daniel Girard, donc moi j'anime, j'ai créé ma société il y a 7 ans. Je suis mandataire pour Dynabuy, qui est une enseigne de services aux entreprises. Donc sur trois volets. Le premier volet, notre volet historique, sont tout ce qui va être mutualisation des achats, puisqu'aujourd'hui la marge pour les entreprises passe par bien acheter. Un volet qui est dans l'actualité également, que sont les réseaux d'affaires, hein, puisque j'anime des réseaux de chefs d'entreprise sur Boulogne, l'Eure-et-Loir, donc Chartres et Dreux, et Blois, où j'ai également des clubs à faire. Et puis un volet, on va dire, un peu plus social pour apporter et fidéliser des salariés au travers d'une plateforme d'avantages CSE, voilà, pour partir en vacances, faire des économies sur ses achats.
Daniel a une double casquette puisqu'il a sa propre entreprise, mais aussi il côtoie tous les jours des centaines d'entreprises et il va peut-être aussi se faire le relais des freins ou des motivations que les entreprises ont à se créer.
Donc là, ça va dépendre des chefs d'entreprise que je rencontre. Il y a les deux.
Oui, voilà.
Il y a ceux qui sont effectivement des entrepreneurs aguerris. Il y a ceux qui sont effectivement qui ont envie de sortir d'un cadre et puis qui ont envie d'entreprendre. Donc il y a différentes populations, différents profils. Donc c'est toute la richesse, en tout cas, de mon activité, c'est ces rencontres et puis de belles pépites, parce que c'est vrai qu'on a la chance. En France aussi, de voir de belles entreprises industrielles qui voilà, se sont développées au fil du temps avec de belles success stories, notamment. Donc, c'est chouette.
Donc on va être un peu positif ce soir. Il y a des
Oui,
freins, mais il y a aussi beaucoup de motivation.
mais c'est ça. Juste pour contextualiser,
Ouais.
Daniel, tu es de la fin de génération X et Clara, tu es.
Je
Non, mais c'est important. Et Clara, tu es de. On est de la même génération, donc Y. Voilà.
Plein milieu.
En plein milieu, ouais.
Donc on fait deux.
Non, c'est pas versus. Nous, on est vraiment en
D'accord.
symbiose avec tout le monde. Justement, on va voir par rapport à nos croyances, etc. Et ce qu'on nous a inculqué, parce que souvent, c'est ce qui joue aussi. Enfin, c'est ce qu'on voit dans tous nos échanges qu'on a depuis le début du podcast. Souvent, c'est vraiment la culture que tu as eue par rapport à ta génération, avec le fait de ne plus voir de la même façon la vie, on va dire, que les autres générations.
C'est l'expérience.
C'est ça.
Et en même temps, effectivement, Daniel, il est fin X. Moi, je suis début X.
Ah,
Donc,
mais
on
c'est
va faire
parfait.
l'équilibre aussi.
Oui, moi
Hein.
je suis la transition.
Ouais. Ouais, toi, tu es la transition sur la génération de Clara et de Mélissa. Si on rentre dans le vif du sujet, moi, j'aime bien poser les choses avec quelques chiffres. Est-ce que vous savez, en 2023, combien il y a eu d'entreprises créées en France?
Alors, j'ai entendu le chiffre, mais je m'en souviens pas. Tu vois, pourtant.
Il y a plus d'1 million d'entreprises qui ont été créées en 2023 et ça a été encore un nouveau record. Alors, dans ces 1,1 million, le statut de micro-entreprise est pour
Oui,
61%.
c'est énorme.
Et les services les plus dynamiques, c'est la livraison, les services à la personne, le conseil et numérique. Ces chiffres, ça vous parlait?
Le pourcentage de micro-entreprises, oui. 1 million, non, j'étais pas trop. J'avais eu les chiffres dernièrement, j'avais fait un événement parce que je suis partenaire d'initiative
Or et
Eure-et-Loir, et du coup, lors de l'assemblée, ils avaient évoqué différents chiffres, dont les leurs. Donc, mais j'avais plus le souvenir.
Vous connaissez peut-être l'âge moyen au moment de la création d'entreprise.
35.
Yes, presque.
J'allais dire 37, moi.
Mais
Eh
c'est
bien, c'est
impressionnant.
36,
Ouais.
voilà, selon BPI France.
Alors moi, j'avoue que j'ai été assez surprise du chiffre. Je sais pas pourquoi. Je pensais que c'était beaucoup plus. Enfin, c'est pas vieux 36, mais que c'était beaucoup plus jeune cette envie justement de commencer à entreprendre. Donc ouais, je suis surprise du chiffre.
Alors, il y a la réflexion, je pense qu'il y a un délai, il y a
Voilà.
un délai
Ouais, je sais pas
latent
comment
entre
ils
le
le
moment où tu
calculent.
y réfléchis et puis tu bascules. On va peut-être pouvoir en
Ben
parler,
ouais,
mais on
c'est
est peut-être
l'objectif
là-dedans parce que
justement, ouais.
même si je fais partie de la génération X, ça fait 7 ans que j'ai créé, donc tu vois,
Oui.
j'étais dans la même, à peu près la même
Oui,
génération.
oui. Et avant qu'on allume les micros, on échangeait. Moi, la première, j'ai créé ma première structure, j'avais 38 ans. Donc,
Mais ça.
on
Alors,
est pile dans ça.
c'est à quel âge à peu près que tu as commencé à réfléchir à devenir entrepreneur pour suivre ce que tu disais, Daniel, parce qu'effectivement, il y a un moment de réflexion.
Alors moi, j'ai pas vraiment réfléchi à devenir
Ou eu envie.
entrepreneur. J'étais dans une forme de salariat ultra confortable. Je travaillais pour une PME. Je me suis toujours très très bien entendue avec le dirigeant. J'avais une forme de liberté, sauf que dans une PME, en même temps, il faut un peu respirer. Et je pense que j'avais fait le tour et que grâce à l'intelligence du dirigeant. Il m'a laissé un peu carte blanche et je me suis ouvert sur une nouvelle forme dans mon métier en freelance. Et donc, du coup, moi, ma motivation à entreprendre, c'était pas forcément créer une structure, manager des gens, c'était gagner une forme de liberté et d'action, de continuer à me nourrir. Et la seule façon que j'avais de pouvoir le faire, c'était de créer ma propre structure. Et donc, j'ai créé ma propre structure que j'ai gardée pendant des années. Et après, la vie a fait que j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Et aujourd'hui, je suis toujours en freelance, mais j'ai un statut de profession libérale, micro-entreprise, et je suis très heureuse.
Parfait, Daniel.
Bah écoute, moi je pense qu'un peu hein, dans le même esprit que Sandrine. Alors moi je suis autodidacte, j'ai pas spécialement fait d'études. Je suis arrivé dans l'hôtellerie comme j'aurais pu faire de la vente. J'ai eu la chance d'intégrer un groupe, d'avoir des grands groupes en France. Et moi j'ai intégré le groupe Accor il y a très longtemps, en 1998. Je suis parti à Londres. Et puis bah, il m'a formé et puis j'ai évolué jusqu'au poste de direction. Et c'est vrai que quand on a des postes de direction, on a une autonomie sur énormément de choses. On manage des équipes, des achats, même si on est assisté sur plein de domaines, mais on a beaucoup d'autonomie. Donc c'est vrai que je pense que j'avais une âme d'entrepreneur, mais j'étais dans un confort. Et je pense que c'est aussi ce qui fait que, on parlait de la moyenne d'âge.
Ouais.
Mais
Oui.
je pense que si on posait la question, c'est pour certains, c'est des personnes qui, comme Sandrine, comme moi, on a eu des parcours en entreprise qui étaient super intéressants, super enrichissants, et on a franchi le cap. Voilà, on y pensait depuis longtemps. Moi, on m'a proposé aussi de m'installer, mais j'étais sur à milieu de croire que des gens pouvaient te donner de l'argent, enfin, investir sur toi pour créer quelque chose aussi. Enfin, je
Oui.
pense qu'il y a une sorte d'éveil aussi à tout ça en fonction des milieux dont on vient qui permettent de se dire si ça existe, des personnes qui prennent toi et qui investissent pour que tu crées quelque chose.
Super intéressant comment tu l'expliques. Ouais. Et donc, Clara.
Alors moi, ça a duré moins longtemps le parcours avant, forcément. Mais en
Là, elle est
gros,
en train de nous
j'étais...
dire qu'elle est plus jeune.
Alors
Non,
moi,
que j'ai
j'ai
moins
quand
d'expérience.
même fait 20 ans chez Accor. Donc, moi, je me suis installé, tu vois, j'avais 39 ans. Donc,
Oui, t'es dans les chiffres.
je suis dans les
Oui, t'es dans
chiffres.
les chiffres. Mais moi, j'ai fait que 12 ans en entreprise. J'étais en PME aussi, donc dans les télécoms. J'étais responsable marketing communication, chef de projet IT digital. Enfin, j'avais beaucoup de casquettes, hein, grossièrement. Et je pense que ça a commencé à germer l'envie d'entreprendre grossièrement post-Covid. En fait, au moment où, puisque on parlait la dernière fois lors d'un podcast enfin,
D'un débat.
dans un débat qu'on était la génération de la souffrance, qui a amorcé la transition au travail dans la souffrance. Et bah, bon, comme beaucoup de ma génération, forcément, j'ai fait un burn-out. Donc ça, c'était en 2022. Et c'est vrai que c'est là où je me suis dit... Enfin, c'est là où j'ai dénoncé le burn-out. Ça faisait 7 ans que j'étais en burn-out, à peu près. Hein. Et où j'ai dit, bon, bah, stop. C'est fini, on se met en pause. Et c'est là où j'ai cherché comment je peux être tranquille. C'était vraiment un peu comme toi, Sandrine, l'appel de la liberté, de la tranquillité. Enfin, de...
J'ai pas dit tranquille, j'ai dit liberté.
Liberté.
Parce qu'on n'est pas tranquille.
Bah, je trouve que si. Mentalement, je suis, même si j'ai beaucoup de travail aujourd'hui, comme avant, mais je suis plus tranquille parce que je suis bien dans mes pompes.
En alors, parce que tout va bien.
Ouais,
c'est parce
vrai.
Que tout va bien aussi. Faut dire ce qui est, ton business, tu nous expliquais en off, ça fonctionne, etc. Mais quand tu commences à avoir des cailloux dans ton business, là, c'est plus pareil.
J'en suis convaincue. Et c'est une peur qui reste présente.
Non, mais après, il faut pas. Faut
une
pas...
vigilance.
Oui, voilà, il faut pas
je
que.
Je vais traduire, tu sais, pour apaiser le truc.
Non, mais c'est important.
Bah non, mais c'est, ça reste une quand même un point d'alerte.
Mais c'est pas grave, on s'en remet aussi, hein, t'inquiète.
Ça s'appelle l'expérience.
Je m'inquiète, moi.
On discute avec des chefs d'entreprise qui ont eu des moments compliqués. Moi, j'en ai croisé. Effectivement, aujourd'hui, c'est d'expérience. Et moi, toutes ces informations-là, toutes ces, on va dire que le transfert d'expérience qu'ils me font, je le partage aussi. Alors, plus particulièrement avec ma fille qui a 20 ans et qui a envie qu'on entreprenne bientôt. puisqu'elle finit son BTS, elle veut qu'on ait un établissement ensemble. Donc, voilà. Elle a plus l'entrepreneuriat dans l'âme. Alors, c'est pour faire quelque chose avec papa. Mais effectivement, on voit ces transferts d'expérience et c'est important d'en tenir compte pour effectivement d'être confronté demain quand on est confronté et qu'on a les informations. Ça permet d'anticiper sur un certain nombre de sujets.
Bah, c'est un des points aussi où je pense avec la génération actuelle, donc la génération Z, par rapport à la Y, il y a une différence dans le sens où bah, nous, la Y, l'entrepreneuriat, et vous aussi, je pense, la X, l'entrepreneuriat à l'école, on n'en parlait pas du tout.
On commence à en parler maintenant. Par exemple, un de nos partenaires avec qui on travaille, avec Mélissa, qui est Jean-Marc de chez Formaflow, il y a des options qu'on rend obligatoires, qui ne sont pas obligatoires, c'est le module entrepreneuriat.
Ben, je pense que c'est une très bonne chose parce que c'est vrai que moi, quand j'ai pensé à me lancer toute seule, eh ben, au début, je me suis dit je n'ai pas les épaules, très clairement. Et c'est le fait de m'être fait accompagner dans le cadre d'une formation spécifique sur l'entrepreneuriat où je me suis dit ah, en fait, ça peut le faire. Mmh. Et je peux y arriver. Parce que sinon, c'est une nébuleuse vue de l'extérieur.
Et ça, c'est super intéressant parce que je reviens à mes petits chiffres. Donc ça, c'est une source OpinionWay, BPI France toujours. 47% des Français aimeraient entreprendre, mais ne passent pas à l'action. Parce que la peur de l'échec, le poids administratif et le manque de financement dans les trois critères.
Le manque de réseau.
Ouais. Le important et effectivement le manque de réseau. Mais le manque de réseau, Clara en est... un exemple même, ouais. Première étape, elle s'est inscrite dans les réseaux. Et Daniel, comme moi, on sait tellement que le réseau, c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence.
Mais dans tout, en fait. Excuse-moi de te couper, mais c'est vrai que pas seulement, parce que souvent, on en parle aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, mais moi, c'est ce que je dis aux jeunes que je vois quand je rencontre des jeunes à l'école ou que j'interviens. Même certaines fois au collège, je leur dis dès que vous commencez, enfin le réseau, il est important de le constituer dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que une première expérience en stage, c'est ce que vous entretenez avec le professionnel chez qui vous êtes allé en stage, si vous avez bien choisi. Et tout ça vraiment au cours de sa vie personnelle, ça peut permettre pour plein de sujets de pouvoir rebondir, de pouvoir trouver des solutions. Moi, c'est ce que je dis souvent, le réseau, c'est une énergie, en fait. C'est quelque chose qui va créer du mouvement. Et c'est à nous de créer ce mouvement-là. Donc, en facilitant, en disant, j'ai travaillé chez un tel.
Exactement.
Et ça, c'est dès le plus jeune âge, parce que je vois ma fille, 20 ans, j'ai invité sur différents réseaux dont je faisais partie, que ce soit Dinaba, Rotary ou autre. Et c'est vrai que derrière, je le vois déjà à 20 ans. Ouais. Elle commence à avoir un réseau.
Ça, c'est dur de leur faire prendre conscience. J'en parlais justement tout à l'heure. J'ai voulu inviter une partie d'une classe de NDRC. Et en fait, quand j'aurais expliqué l'événement du 12 juin, silence pour une partie. Qu'est-ce qu'il y a ? Enfin, voilà. Ouais, mais nous, en gros, on a autre chose à faire. Mais en fait, vous ne comprenez pas que c'est du réseau et que vous travaillez pour demain, quoi. Donc, effectivement, c'est un sujet qui est dur quand même à leur faire rentrer dans leur tête parce qu'ils ne saisissent pas encore.
Alors, ce n'est pas tous les jeunes, mais globalement, effectivement, le réseau, c'est on n'est pas tranquille le soir chez soi.
Bah non, ça ne vient pas tout seul, en fait.
Ça ne vient pas tout seul, il faut passer du temps.
C'est ça.
Et le réseau, ce n'est pas juste boire un coup et voir des personnes intéressantes. C'est aussi traiter les contacts, garder le contact. Enfin, c'est tout un écosystème, ouais. Le réseau. Mais c'est vraiment le dernier frein à l'entrepreneuriat, le réseau, parce que le premier, quand même, frein, c'est l'administratif et le manque de financement.
La peur de l'échec, ouais.
Oui, c'est le manque, en fait, souvent de fois, parce que c'est vrai que moi, je le vois, j'en fais partie. J'étais un petit peu dans une cage dorée quand j'étais chez Accor, et puis j'y étais bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais souvent de fois, c'est le manque d'informations.
C'est ce qu'on disait en off.
La formation et l'information, ouais. En fait, elle est essentielle pour entreprendre. Parce que même quand on se pose les questions, on ne sait pas toujours où aller, on ne sait pas qui contacter, dans quel sens prendre les choses. C'est-à-dire que je pense que Clara, ça va être pareil. Mais moi, quand j'ai voulu me lancer, sous quel statut je me mets. Donc, oui. Tu vois les experts comptables, tu as les tendances.
Ils ne te disent jamais la même chose. Ça, et en fonction de ton projet, oui. Ils ne te préconisent pas du tout la même chose.
Ouais.
Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment une approche.
Ah oui, il y a énormément de sujets à aborder étape par étape. Et c'est ce qui fait que certaines fois, on se lance, enfin, on veut se lancer. Et puis, on fait un pas en avant, deux pas en arrière. Et puis, on se dit, pour l'instant, ce n'est pas le moment, quoi.
Et puis, je suis d'accord, la charge administrative, moi, ça me fait réfléchir quand tu parles, mais quand j'avais pris la décision de transformer la micro, donc t'as plein de papiers à faire pour la fermer, bon, c'est facile, en vrai. Mais d'ouvrir une entreprise avec un statut, un vrai, comme ils disent, parce qu'il y a les petits et grands entrepreneurs, et du coup, la charge administrative et les allers-retours de « il manque ce document »,« ah, mais en fait, on vous a pas dit, il fallait signer là »,« ah, binanani », mais c'est… En fait, ça a de quoi de te décourager dès le début, quoi.
Et l'angoisse d'appuyer sur le mauvais bouton.
Ah, c'est vrai.
Ou cocher la mauvaise case.
Ah oui, ouais.
Donc,
vous n'avez pas eu ça?
Enfin, moi, j'ai eu du bol parce que c'était super facile, ma partie rédaction de statut.
T'es
et
en
tout ça.
Quel t'es sous
quel... Je suis en EURL.
Ok, ouais.
Et donc, pour le coup, alors.
Tu t'es fait accompagner?
Alors, je me suis fait accompagner. En fait, c'est mon comptable qui a pris le relais.
Ouais, moi, j'ai tout fait.
Ça faisait partie du truc. Comme j'ai pris un expert comptable, ça faisait partie du truc. Et ça, j'ai eu du bol. Et grossièrement, ils m'ont fait ça à packager. J'ai dit non, là, il y a des fautes. Ils ont corrigé et c'est bon. On va laisser peser. Et en deux jours, c'était immatriculé.
Parce que tu avais une forme de ressource et à un moment donné, c'est très. Par exemple, je cite un pays, les États-Unis, mais c'est peut-être pas la meilleure des références. Mais dans cette notion de coach et d'accompagnement, de coaching et d'accompagnement, ils ont ça vraiment dans les veines. Nous, on veut tout faire tout seul. Nous, on est très latin, un sou, c'est un sou, machin. Et en fin de compte, c'est toi qui as la bonne démarche. Il faut pas hésiter un quart de seconde à payer un expert comptable qui va faire tout mieux que toi, même si toi, tu as un regard après et que tu as les ressources pour modifier. Mais oui, c'est important. Et c'est vrai que c'est pas très ancré dans beaucoup... Les entrepreneurs, on essaye, et dans les PME, et dans les TPE, et alors on ne parle même pas des solo-entrepreneurs, on veut tout faire tout seul. On va économiser le max.
Je ne suis pas d'accord là-dessus.
Toi, tu es plus, Daniel, t'hésites pas.
Je ne suis pas sur le économiser, non.
Non, mais je suis plus. Enfin, moi, je suis assez d'accord avec Clara, parce que.
Oui, mais ce n'est pas une question d'argent. Enfin, moi, je ne vois pas comme ça.
Certaines fois, c'est plus parce que les personnes se disent j'ai les compétences, je peux le faire. Après, souvent de fois, ce qu'on voit, c'est que oui, tu peux le faire, mais est-ce que c'est ta zone de brillance? Est-ce que c'est pas du temps perdu? Est-ce que donc moi, c'est vrai que comme Clara, je suis en EURL aussi, et c'est vrai que j'ai plutôt sondé différents profils d'experts comptables pour voir en fonction de ce qu'ils me proposaient, ce que je trouvais pour moi le plus cohérent en fonction des explications, parce que c'est leur partie, mais effectivement, puisqu'ils proposent pas tous la même chose, c'est qu'il y a, il y a des différences. Et souvent de fois, faut aussi être honnête, c'est que quand on est encore sous Pôle emploi, parce que beaucoup aussi, on a la chance quand même, faut le dire, en France,
les dispositifs
qui existent. Et ça, c'est ce qui, l'information, on en parlait, c'est ce qui manque, parce que ça peut permettre, en tout cas, de pouvoir avoir une aide en termes de levier financier. Alors, c'est pas, ça peut être des montants moyens, intermédiaires, ou des gros montants, mais c'est vrai que c'est une chance qu'on a, en tout cas, en France, d'avoir différents dispositifs qui existent. Maintenant, c'est comme tout, c'est, on a la chance de les avoir, le tout, c'est de les connaître.
Exactement.
Et souvent de fois, c'est ce qui manque, quand on recrute, pareil, il y a plein de dispositifs qui existent, mais qu'on ne connaît pas, malheureusement, pour, se laisser le temps, en tout cas, de recruter la bonne personne ou autre, et voilà.
Mais tu vois, c'est vraiment tout ça, moi, je trouve, enfin, qu'on veut mettre en avant au travers du podcast, au-delà de, bah, de parler des expériences de chacun et justement que des pros nous disent, voilà, il y a ce dispositif, etc., etc., pour aider non seulement les personnes qui veulent entreprendre, mais aussi les jeunes qui veulent rentrer dans le monde du travail ou encore les adultes qui veulent se changer de travail et tout. Donc, franchement, merci. Je suis trop contente. Je le dis.
Moi, honnêtement, s'il y a un seul truc que je pourrais dire, enfin, qui a fait la différence, c'est la formation à apprendre à créer son entreprise, quoi, grossièrement, ouais, que j'ai suivie. Donc, il m'a été conseillé par ma conseillère CSP à l'époque. J'étais en contrat de sécurisation professionnelle, licenciement économique, tout ça.
Ouais.
Et c'est elle qui m'a dit, tu vas dans cette formation et ton business plan, il sera, tu sors de la formation, ton business plan, il est fait aux petits oignons, c'est tout finalisé. Mais elle m'a dit aux petits oignons, texto. Bon, j'ai changé 3 fois de projet pendant la formation, ça c'est un autre sujet.
mais c'est dispositif. Pas tous les candidats à ce dispositif transforment et s'immatriculent derrière. Et en même temps, moi je trouve que c'est des dispositifs qui sont précieux parce que ça t'a permis d'affiner, d'identifier que là, c'était pas le bon plan, que du coup, c'était pas ce que tu voulais vraiment. Et on a très, très vite, donc moi, j'ai eu la chance de partager un petit bout du dispositif en accompagnant Clara. Et très, très vite, d'abord, tu avais les ressources, c'était très structuré dans ta tête. Et quand tu arrives aux chiffres, tu voyais bien que ça le faisait pas. Ça le faisait pas. Et tu as rebondi, mais et c'est grâce à ça, c'est que ça t'a amené une réflexion. Tu as transformé aussi, parce qu'il y a des dispositifs qui existent. Il faut essayer de les transformer. Et donc, c'est bien, et que tu le dises, on a le droit de changer 2-3 fois d'idée. Et aujourd'hui, je trouve que tu es plutôt épanouie, on te voit partout, tu n'hésites pas à intégrer les réseaux. Donc ça, c'est important. C'est important. Et donc, aussi, quand on veut entreprendre, il faut pas rester dans son isolement. Il faut parler. Nous, on se parle entre nous en disant, bah, tiens, toi, tu fais ça. Alors, ma génération, on a beaucoup de mal à exprimer. Parce que nous, on nous a appris, il fallait être... on était les meilleurs. Voilà. On était les meilleurs. Aucune faiblesse.
Je l'ai enregistré.
Aucune faiblesse. Sauf que j'ai vite identifié qu'on n'était pas les meilleurs, mais on n'exprimait pas entre pairs nos craintes et nos peurs, et quand on a des soucis, enfin, ça, c'est une vraie réalité, ma génération. On est chef d'entreprise. Alors, en plus, ma génération, les chefs d'entreprise sont majoritairement masculins. Donc, de ma génération, donc, une façon de verbaliser pas très fluide. Donc, et on a vu que, on a des chefs d'entreprise qui sont en souffrance et qui ne le verbalisent pas. Et donc ça, c'est dommage, parce que je crois qu'aujourd'hui, et vous, votre génération, vous êtes dépollués de ça. Moi, je suis très, et merci Clara de dire, ça faisait 7 ans que j'étais en burn-out et il a fallu que je mette un mot, il y a en 2022, sur ma fragilité. Je pense qu'à un moment donné, j'ai dû avoir des périodes comme ça, mais que j'ai tellement étouffé que je ne sais même pas si ça s'appelait comme ça ou pas, mais des périodes de grosse fatigue. Et voilà, et vous êtes une génération un peu dépolluée de ça, et c'est peut-être aussi peut-être pour ça que vous entreprenez un peu plus facilement que notre génération.
Alors, juste pour rebondir, parce que c'est vrai qu'on parle de l'entrepreneur, mais on pourrait parler de façon aussi sociétale, c'est-à-dire que les générations aussi d'avant, il y avait une certaine pudeur sur la verbalisation, aussi de la façon dont on parlait à ses enfants. Donc, quelque part, ça se traduisait naturellement dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et puis, effectivement, l'évolution sociale, ça a transpiré un petit peu plus dans l'entrepreneuriat. Et puis, si on regarde, tu parlais tout à l'heure de coaching. Moi, j'adore le sport. Tu voyais très peu de sportifs de haut niveau qui assumaient, qui étaient accompagnés par des coachs. Effectivement, c'est aussi ces dernières années où on le voit un petit peu plus. Et puis, les sportifs de haut niveau qui ont des résultats en témoignent en tout cas que c'est grâce justement à l'accompagnement d'une ressource extérieure. Parce qu'on était dans quelque chose où on pouvait être accompagné que par des personnes qui avaient fait limite mieux, enfin voilà, qui étaient inspirants. Mais non, c'est le coaching, c'est surtout quelqu'un qui va valider des points d'étape, quelqu'un qui va nous challenger. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui on a découvert ça, on est plus ouvert sur plein de méthodes, la sophrologie ou autre en entreprise. Enfin, moi j'adore aussi prendre soin de moi et c'est important parce que on est la ressource de notre entreprise. Donc, c'est vrai que de se faire accompagner de différentes façons, de découvrir différentes façons aussi, que ce soit...
Et d'avoir des outils.
D'avoir des outils, parce que au quotidien, c'est ça, c'est de pouvoir rebondir. Et ça, c'est grâce... Il faut avoir une forme d'ouverture d'esprit. Et puis, c'est grâce aux rencontres, aux échanges. Ça nous nourrit. Et on se dit, tiens, c'est intéressant. On va lire un livre qu'on nous a recommandé. Et puis... Et puis on découvre et puis on avance. Et c'est comme ça qu'on a peut-être moins peur aussi d'entreprendre après.
Oui, parce que moi, je n'ai pas expliqué comment m'est venue
ton envie d'entreprendre.
Et donc, je pense que c'est important parce que ce n'est pas du tout comme vous. Moi, je sais que de mémoire, dès mon adolescence, j'ai toujours dit j'aurai ma propre entreprise. Je ne suis pas du tout issue d'une famille déjà monoparentale, etc. Pas du tout d'entreprise, d'entrepreneur. De n'importe quel côté dans ma famille, mais je sais pas pourquoi c'était comme ça. Comme j'avais dit dans un podcast que je voulais avoir un master, machin, ça je l'ai pas eu. Mais
pas trop tard. Hein.
Non, il est pas trop tard, mais attends, me mets pas trop de pression. mais bon, c'est pas grave. Mais effectivement, je me suis toujours vue entreprendre. Alors j'ai commencé à aller travailler classiquement comme tout le monde, enfin à notre époque, donc l'usine, etc. Voilà, le temps de trouver un job, un CDI qui était le Graal. Et en fait, moi, je me sentais, je commençais à avoir la fin de ce que je pouvais faire dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Ça se passait bien, enfin, je veux dire, des petits conflits, mais enfin, le classique dans une entreprise, quoi, pas de trucs. Et en fait, ça m'est venu hyper naturellement. Enfin, c'était en fait une suite logique de ce que je m'étais dit, d'un des objectifs que je m'étais fixé, d'un des objectifs qui me permettait de me lever tous les matins pour rebondir sur le dernier podcast. Et j'ai commencé à créer au début une micro en parallèle de mon salariat. Et puis un jour, j'ai fait j'arrête et je vais aller à 100% dans la micro que j'ai transformée en entreprise et que ensuite j'ai dû fermer quelques années plus tard. Et là, je suis repartie en micro. Mais effectivement, j'ai toujours voulu ça. Voilà. Donc c'est marrant de voir un peu.
C'est parce que tu es plus jeune.
On a deux ans d'écart, ça va.
Alors, après, moi, je me suis toujours fixé aussi de devenir chef d'entreprise. Mais comme j'ai eu la chance de rentrer dans le groupe Accor, tu sais, l'autonomie…
T'as pris ce que tu avais à apprendre.
C'est ça, j'ai pris ce que j'avais à apprendre. Certaines fois, j'ai écouté ce qu'on m'a dit. Puis après, tu commences à faire ta vie, les enfants, tu veux sécuriser, tout ça. Donc, moi, c'est vrai que j'étais aussi seul avec ma maman. Donc… les galères, j'ai un petit peu connu. Donc, tu veux sécuriser pour tes enfants, tu veux pas qu'ils connaissent tout ça. Donc, c'est aussi, je pense, pas mal de personnes, malgré tout. L'autre jour, j'étais à une intervention sur un entrepreneur à succès. Et c'est ce qu'il disait, c'est que lui, pareil, il est parti de rien. Donc, il a créé une licorne quand même. Donc, Jonathan Angeloff. Et du coup, c'est ce qu'il disait, c'est qu'à un moment, lui, pareil, il s'est passé par les services sociaux, tout ça. Mais c'est ce qu'il a dit, c'est qu'à un moment, il savait ce qu'il voulait. En tout cas, il voulait réussir. Il savait pas. Et puis c'est pas mis de limite. Et puis bah quand t'as rien à perdre, en fait, c'est ça. Mais tu vois, c'est là où tu vois que le moment de bascule, c'est quand tu commences à avoir tes enfants. En fait, tu fais attention déjà, tu roules moins vite, parce que tu veux sécuriser pour eux. Et puis bah, en sécurisant, tu te mets dans un petit truc, un petit peu
Ouais.
confort, une petite cage dorée, qui est pas si mal que ça. Hein, mais voilà. Et tes rêves d'enfant, tu les retardes.
Et en même temps, quand on est des autodidactes, parce que moi je me considère aussi, j'ai pas fait de grandes écoles, quand on est un peu autodidacte, je pense que de passer par le monde du salariat et des grands groupes, c'est une vraie
Bien sûr.
opportunité dans la structure de travail. On a des outils qu'on trouve nulle part d'autre ailleurs. Et quand après tu montes ta propre structure ou que tu vas travailler dans une entreprise de taille plus petite, ben, tu sais comment faciliter ton travail, suivre, piloter l'activité, tu sais comment t'y prendre. Et ça, c'est des passages qui... Voilà, une forme de maturité à entreprendre parce qu'on connaît l'écosystème de l'entreprise, parce que l'entreprise, ce n'est pas que vendre,
Non.
l'entreprise, ce n'est pas que gérer,
C'est ça.
l'entreprise, ce n'est pas que faire de l'administratif, c'est un tout. Et je pense que, alors oui, on a des jolis exemples où en disant, ben voilà, allez, on y va, on va dans notre garage et on va inventer un truc et voilà, et 30 ans plus tard, on est les rois de la planète. C'est pas voilà, c'est pas ça n'arrive pas à tout le monde et puis mais on peut entreprendre de manière un peu plus classique et en étant en accord avec soi-même aussi.
Vous voulez rebondir, Clara?
Oui, parce que je trouvais ça marrant. Donc tu disais que tu as repoussé ton rêve par rapport à la sécurité que tu veux apporter à ta famille. Je comprends parfaitement. Mais moi, c'est l'inverse. Alors, j'ai pas d'enfants, j'ai des chiens. Et du coup, moi, c'est pour avoir la liberté et l'indépendance de bien m'occuper de mon chien, parce que très clairement, tout à l'heure, je parlais de mon burn-out, c'est grâce à mon chien que je me suis mise en arrêt. Parce que ça a été l'élément déclencheur, hein. Je me suis battue avec mon entreprise, je me suis mise en conflit avec eux, mais c'est pour eux que j'ai repensé ma vie maintenant. Et en fait, vu qu'ils font en partie intégrante de ma vie, vraiment beaucoup, mon mari aussi, hein, mes chiens quand
Oui,
même,
c'est gentil pour lui.
hein. Oui, mais ton chien, tu peux pas lui dire, tu comprends, j'ai une réunion qui a fini tard. Il comprend pas ça. T'es obligé d'être là pour lui, t'es tout son monde. Donc en fait, ce côté-là, eh ben, j'ai réorganisé ma vie aujourd'hui pour qu'elle matche avec leurs besoins à eux.
Si on revenait aux motivations, on a vu les freins, l'administratif, sortir de sa zone de confort, l'accompagnement, etc. Et quelle est la part de quête de sens, d'autonomie, de statut social ou d'impact dans votre parcours?
Alors moi, la quête de sens, c'était vraiment enfin, la quête de sens et recherche d'impact, en fait, c'était un petit peu les deux ensemble, hein. C'est ce que j'ai travaillé dans un temps deux. En fait, d'abord, je me suis dit, je vais être indépendante, foutez-moi la paix, grossièrement. Et dans un temps deux, je me suis dit, bon, et je fais quoi maintenant? Maintenant que je sais ça, je me tourne vers quoi? Et c'est comme ça que je suis arrivée à la RSE, en fait. Et donc, grossièrement, ça représentait bah, le 50%, hein, c'est 50-50. Et aussi parce que bah, dans tout le premier volet de recherche d'indépendance, je me suis dit que la mission de l'entreprise dans laquelle j'étais ne me convenait pas. Parce que je ne voyais pas l'intérêt d'aller faire du business pour déployer des trucs pas utiles, en fait, pas nécessaires. Et que du coup, ça faisait de la croissance, enfin, de la surconsommation, enfin bref, voilà, tous ces trucs-là.
Donc le sens,
Le
les
sens était
valeurs.
très, très important.
Ouais. Bon, Daniel.
Moi, c'était un petit mixte de plein de choses aussi. J'avais réfléchi, anticipé quand j'étais encore directeur, j'avais fait un bilan APEC. Donc ça m'avait vraiment beaucoup apporté sur ma réflexion et c'est ce qu'elle m'avait ressorti par rapport aux différents quiz. C'était le côté entrepreneuriat. En fait, j'étais arrivé à un moment où soit je passais un échelon supplémentaire, mais j'étais pour moi plus en lien avec la relation client qui est pour moi essentielle, le travail avec les équipes où j'aurais managé entre guillemets mes pairs. Donc là, c'était pour moi peut-être un petit peu plus compliqué. J'avais besoin du sens client. Je faisais déjà beaucoup de réseaux, beaucoup de développement, donc fallait que ça reste quelque chose de cohérent. Et le commerce a toujours été, depuis, même quand j'ai fait mon apprentissage, voilà, je pense qu'on a le sens du commerce ou on ne l'a pas. Et ça, ça faisait partie vraiment intégrante de mon schéma. Donc, mais je ne savais pas quoi faire, en fait. Puisque j'avais une contrainte, c'était une contrainte géographique. Quand j'ai arrêté mon activité professionnelle pour le groupe Accor, j'étais en train de divorcer. Et une fille que j'avais tout le temps avec moi, la grande, et la petite en garde alternée. Donc, à un moment, tu peux pas partir. Tu es obligé de rester géographiquement avec plein de contraintes. Si je prends un établissement, restaurant, hôtel, comment je vais gérer la petite, tout ça. Et puis, bah, j'ai cherché, j'ai réfléchi à tout ce que j'avais vu. Et puis, bah, c'est là où je suis tombé un peu par hasard. Sur Dynaba, et ça a coché toutes les cases que j'avais repris au bilan APEC, donc ce que je voulais apporter aux chefs d'entreprise, justement, parce que ça, c'est quelque chose que, naturellement, j'ai changé. J'étais fait partie de différents réseaux, groupements d'entreprise, sur le pôle 45, des commerçants et tout ça, et j'apportais déjà du conseil ou autre, donc naturellement, quand j'ai vu ça, je dis, bah, ça me convient. Et puis, plus largement, quand je vois les chefs d'entreprise que je rencontre, parce que c'était aussi ça, l'idée, bah, c'est beaucoup le sens quand même, parce que je vois des personnes qui ont des parcours, voilà, je trouve que j'ai un beau parcours, mais formidable. Je déjeunais l'autre jour avec une chef d'entreprise qui a été pilote de ligne, donc voilà, t'as été pilote de ligne. Donc, qui est passé par différents schémas, qui a eu différents postes. Et concrètement, bah, c'est ce qu'elle me disait, c'était le sens. C'est que pourquoi on arrête d'être pilote de ligne, on très, très bien sa vie quand on le devient. Alors, ça a été beaucoup d'investissement, mais c'est, voilà, c'est du sens. Et c'est vrai que je vois quand même beaucoup de chefs d'entreprise qui ont basculé pour du sens, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus en lien avec un schéma très, très financier. Alors, bien évidemment, on est là pour gagner de l'argent, et ça, faut pas l'oublier, hein. Mmh. C'est le nerf de la guerre quand on est chef d'entreprise. Et là, je parlais de l'intervention l'autre jour où j'ai été, mais c'est ce qu'il disait, c'est qu'il y avait différents chefs d'entreprise, et il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est d'aller vendre. Et qu'à un moment, parce qu'on parlait aussi d'ego et autres, quoi qu'on fasse, si tu vends pas ton produit, bah, ta boîte, elle va fermer automatiquement. Donc, il y a toute cette notion-là, ce mix, et donc on va chercher du sens. En tout cas, ce que je vois, c'est du sens, soit par rapport à ce qu'ils ont fait, soit par rapport à un moment, ils se sont formés, ils ont découvert quelque chose qui les inspire. Et puis, et c'est là où c'est pas toujours évident, parce que une passion ou quelque chose qui nous anime, c'est de le monétiser, c'est pas toujours évident.
Ouais. Et là, voilà, c'est la difficulté de, et on va dire, on reprend les stats qu'on a évoquées en début de podcast, beaucoup sur les solo entrepreneurs où c'est vraiment j'ai une passion, ouais, je vais faire ça. Sauf que non, ta passion, tu vas pas savoir la vendre. Il y a toute une mécanique derrière.
C'est là où on parlait tout à l'heure, juste je rebondis dessus, mais c'est là où on parlait, tu vois, de coaching, d'accompagnement. Mmh. C'est-à-dire que tu peux y arriver, mais il faut que tu te fasses accompagner.
Dans la souffrance.
Mais bien sûr, parce monétiser, et puis ça te renvoie, tu sais, c'est toujours, c'est pas assez cher, trop cher. Quand tu vends quelque chose qui te passionne ou t'as vraiment mis tout ton cœur dedans, bah forcément les retours que tu as, ça te fait mal, quoi. Donc c'est ce qui est compliqué, et c'est là où faut, Clara l'a dit, moi je me suis fait accompagner aussi sur la création, mais il y a la création et il y a l'après, et c'est vrai que, alors il y a plein de réseaux qui déjà nous accompagnent et qui vont faire des points aussi avec nous, mais vraiment de se projeter sur un coaching, quelqu'un qui va nous accompagner, qui va nous challenger, je le redis, parce que ça c'est important. C'est ce qui fait que souvent, je pense, les entreprises, j'en ai vu qui ont fermé, mais qui avaient des pépites, qui arrivaient, en fait, qui ont fermé au moment où, limite, elles commençaient à se faire connaître, elles commençaient à pouvoir vendre.
Parce qu'épuisées.
Mais épuisées, processus trop long, toutes ces choses-là, et qui font que, malheureusement, ça ferme, parce qu'il n'y a pas assez d'argent, elles ne vont pas assez vendues, quoi.
Je pense que c'est un peu ce qui s'est passé avec la mode de Mélissa. Donc artisan, j'étais toute seule. Effectivement, la mode, bah, c'est ce qui me caractérise. Hein. Donc, je suis partie là-dedans. Mais en fait, bip, bip, mauvaise idée. Effectivement, la passion. Et même, tout le monde mélange tout et on finit par te dire mais c'est génial ce que vous faites et tout. Bah non, en fait, ça commence à me saouler parce que finalement, c'est quotidien, c'est plus un plaisir. C'est une obligation pour ramasser de l'argent et puis après, bah, essayer de vivre, quoi.
Et je crois aussi qu'il faut savoir bien s'entourer et pas forcément…
Oui, mais ça, il faut le savoir. Encore
oui, il faut
fois,
le savoir. Il faut le verbaliser. Et il faut alors, ne pas rester seul, surtout ne pas rester seul. Et quand on est dans des formats de micro-entreprises, eh ben, il faut aller dans les réseaux.
Ah,
parce que vous allez trouver la compétence que vous n'avez pas, vous allez avoir le savoir que qu'une autre personne n'a pas, et que c'est ça qui va vous faire avancer. Et de se retrouver aussi, parce que travailler, alors même si on pilote une entreprise avec des équipes, etc., la fonction de dirigeant, de manager et de chef d'entreprise, c'est une fonction de solitude. Et forcément, de travailler en binôme ou de travailler avec une équipe restreinte, avec des gens avec qui vous pouvez échanger sur tout, c'est quand même vachement important. Et ça, c'est rare, parce que là, on rentre dans l'humain. Et donc, ça, c'est très, très rare. Donc voilà, après, savoir s'entourer. Alors, est-ce que c'est un frein
Alors, par rapport aux motivations, la génération X, vous, à la base, hein, c'est toujours des clichés, mais on est obligé. Motivation plus souvent liée à l'indépendance ou à un besoin de reconversion après un parcours salarié. Donc,
ouais.
C'est ce que vous avez expliqué.
Génération
quand
X.
Même.
Oui, c'est ça.
Voilà,
c'est
dans les grandes lignes, ouais. Et génération Y, forte quête de sens, d'impact social ou environnemental, volonté de concilier vie perso et vie pro. C'est ce qu'on disait.
Moi, j'ai fait un mix de tout ça, quand même.
Oui.
Tu vois, quand je dis que je suis au carrefour des deux.
Ouais. Ouais.
C'est intéressant.
Et moi, c'est pas forcément. Ouais, la dernière partie, c'est plus une reconversion, mais qui est arrivée plutôt facilement et grâce au réseau. Moi, j'ai rencontré Daniel dans le réseau d'Inabaï. J'ai animé pendant quelques années le réseau d'Inabaï sur Oudan. J'ai eu la chance de te rencontrer. J'ai eu la chance de rencontrer Nathalie. Et à un moment donné, c'est ça
qui
m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui, mais qui est arrivé sans l'avoir vraiment cherché. Je ne l'ai pas cherché. Et donc, ça, c'est le réseau. Je savais que j'allais pas repartir dans une fonction de salariat vu l'âge que j'avais, vu les prétentions salariales que j'avais. Donc bon, je suis capable de faire des petits réglages, mais quand même, il faut pas pousser mémé dans les orties. Donc ça, c'est une.
Ah ça c'est un. T'as la ref ou t'as pas la ref ?
Si on l'a, on l'a. Oubliez pas qu'on est la Y. On a la plupart de vos.
Et donc voilà.
Vos expressions quand même. Alors, on va finir par trois questions.
Allez,
avec
trois
des
questions.
Réponses plutôt courtes. Si vous deviez recommencer aujourd'hui, que feriez-vous dans votre parcours entrepreneurial ?
Donc, Clara, c'est tout à fait récent, rien pour le moment.
Hein. si, tu peux dire, ça fait quand même quelques... Combien de temps ?
Ça fait 9 mois.
Ouais, bon, un peu
tôt. Excuse-moi.
Pardon.
Pour l'instant, je suis assez satisfaite de comment ça commence. Donc.
Très bien.
Qu'est-ce que je ferais différemment ? Vendre plus.
Ok. On voit le businessman.
Qu'est-ce que je ferais différemment ? Vous allez me trouver un peu.
Non, mais moi, je vais dire la même chose que.
Hein. Mais rien. Enfin, tout est arrivé. Parce que réussir, oui, si j'avais vendu plus, si j'avais fait ça. Réussir, moi, je trouve que je ne me suis pas trop mal débrouillée et que tout ça pour arriver là, ce que je fais aujourd'hui, qui je suis et comment j'allie ma vie pro et ma vie perso, je recommence tout pareil.
Moi, c'est plus sur tu vois, on parlait tout à l'heure, c'est de la compétence à monétiser ce que tu fais. Je me suis fait accompagner parce qu'à un moment, j'avais du mal à vendre. Ouais. Tu fais quelque chose, alors même s'il y a des services qui sont concrets, mais d'animer un réseau, c'est pas toujours factuel pour les personnes. Donc, je me rends compte. 7 ans après, de belles success stories qui sont arrivées, de l'impact que tu peux avoir, du côté facilitateur. Mais du coup, tu as toujours à des moments clés, que ce soit en salariat ou même en tant qu'entrepreneur, ce côté imposteur. Et c'est ça qui est, quand je dis vendre plus, c'est vraiment parce que c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que quand on développe, il n'y a pas de secret. À un moment, il faut vendre. Et je reviens dessus parce que quand j'ai entendu l'autre jour, je me suis dit, mais c'est carrément ça. Et c'est vrai qu'au départ, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et tu as plein de freins, en fait. Tu as plein de petites choses qui te bloquent. Tu t'en rends pas compte parce que avant tu étais dans un schéma, tu avais pignon sur rue. Et quand tu commences comme ça et que tu n'as pas ton local, y a des choses qui te manquent. Mmh. Et du coup, il y a cette légitimité que... C'est pour ça que je disais vendre.
Oui, mais tu peux, hein.
Non, mais c'est pour rebondir avec Sandrine. On a eu des longs débats, alors.
Et moi, ça va être plan-plan, mais effectivement, en fait, je sais ce qui m'a manqué. Je l'ai très rapidement compris. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai fermé, etc., une précédente activité. Mais en tout cas, je ne changerai pas parce que le fait d'avoir vécu tout ça, déjà, m'a permis d'aller vivre des expériences qu'on ne vit pas généralement, comme les liquidations, etc. Voilà, bon, c'est assez particulier, mais ça mérite d'être vécu quand même. C'est une aventure. Et puis, avec tout, si j'avais été trop bien dès le début, je serais pas là aujourd'hui parce que j'aurais pas rencontré tout ce que j'ai rencontré. Je me serais pas remise en question à ce point-là. J'aurais pas détecté les problèmes sur lesquels j'aurais dû travailler par la suite, etc.
Peut-être moins de maturité, moins de prise de recul.
Et c'est ce qui s'appelle l'expérience, parce que ça, on le dit assez régulièrement dans les podcasts. Certains diront c'est un échec, et moi je crois que c'est une expérience, et tout ce qui ne tue pas rend plus fort, et qu'à un moment donné la perfection n'existe pas. Et moi, quand je dis rien ne change, bien évidemment j'ai fait des tonnes d'erreurs, mais je vais arrêter de me flageller. À un moment donné, j'ai fait des erreurs, j'ai appris de mes erreurs, j'ai voulu des choses, je ne voulais pas de certaines choses. Voilà, je suis alignée.
La vie, hein.
Voilà, ça s'appelle la vie. Je suis alignée avec qui je suis. Et par contre, entreprendre, si j'avais dû peut-être un peu plus tôt, même.
C'est marrant, moi pas.
Mais t'es toute jeune.
Non, mais justement, je réfléchis à ça.
Tu avais besoin de construire ton expérience et de vivre des choses pour pouvoir basculer.
Un peu comme toi, moi, j'avais besoin de me casser les dents parce que c'est ce qu'on disait avant de commencer le podcast. Moi, j'avais une mentalité X dans un corps Y, si tu veux. J'avais un côté loyauté à l'entreprise extrêmement poussé, mais vraiment extrêmement poussé. Du genre, quand je suis arrivée dedans, j'avais 21 ans et pour moi, j'y restais pendant 15 ans. Bon, j'y suis restée 12 ans, c'est pas si mal déjà. Mais, à aucun moment, j'ai envisagé de quitter ce poste pour aller vers une autre entreprise. Et rien que d'y penser, ça me mettait mal. De me dire, je vais peut-être aller consulter des offres, ça me mettait mal. Et si je m'étais pas cassé les dents à ce moment-là, grâce à mon chien, une fois de plus, j'aurais pas eu le déclic. Et donc, je serais pas partie vers l'entrepreneuriat. Donc, je pense que il y a un temps de maturation qui est nécessaire. Et quand je vois comment j'étais, je sais pas, en 2017, par rapport à maintenant, j'ai honte de comment j'étais avant. Je me dis, la peste ou la, tu sais, pas bienveillante, pas posée, quoi. Alors que maintenant, je suis pas une experte, un gourou là-dessus, mais plus mature.
C'est ça, la maturité, l'âge, l'expérience, les rencontres, les aléas de la vie. Qu'est-ce qui est important, l'essentiel, il y a tout ça. Donc forcément, ça va affiner notre façon de manager, d'accompagner les personnes.
Ça nous polie.
Oui.
C'est ça.
Et pour répondre à la deuxième question, je vais donner la réponse et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. J'aime bien faire la chef. C'est mes restes. Quel conseil donneriez... Pardon ?
Je te reconnais bien là.
Oui, c'est moi, ça. Quel conseil donneriez-vous à un jeune plus âgé, plus jeune ?
Quel conseil donnez-vous à un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat,
qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Je maintiens
âgée.
À un jeune ou une personne plus âgée, parce qu'on voit avec les reconversions à partir de la cinquantaine, 55 ans, etc. Donc moi, j'ai vraiment J'ai vraiment ce mot et je pense que c'est la synthèse de tout ce qu'on s'est dit. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de rajouter des mots. Accompagnement.
Ouais. Ouais.
Accompagnement.
Alors moi, j'en ajouterai un autre sur personnes plus âgées aussi. Ouais. L'accompagnement, oui, mais plus âgées, vas-y, fonce, on n'a qu'une vie, quoi.
Ah non, mais il faut qu'ils se fassent accompagner, ouais, aussi.
Non, mais oui, pourquoi on se met une limite de temps? Oui, mais je suis vieux, je ne peux pas faire ça. Non, tu n'es pas vieux et tu peux le faire, vas-y, si tu as envie. Si tu as des capacités mobiles, physiques, etc.
Moi, je suis assez d'accord avec vous. Alors moi, ce que je dis à ma fille qui a 20 ans, et je lui dis, tu sais, c'est maintenant, en fait. Tu as 20 ans, tu n'as rien à perdre. Quand tu as 20 ans, que tu as un petit appartement, que tu manges des pâtes, c'est moins dérangeant que quand tu as... En fait, tout ce que tu as connu, c'est compliqué de lâcher.
Mais ça, c'est très propre à votre génération.
Oui,
on a un confort de vie, il faut qu'on le sécurise et, oui. Et voilà. Nous, on est là, demain, je quitte tout, je m'en vais, ça me fait rien du tout.
Personnellement, c'est pareil.
Ah. Donc, tu es bien un mix.
Mon petit confort, oui. Mon petit cadre, mon petit truc, des réglages.
Moi, j'ai pas ce problème-là et c'est ce que je partageais aussi à mes filles. Donc, elles ont connu le confort que moi, j'ai pas connu plus jeune. Donc, effectivement, c'est là où moi, j'ai sécurisé pour elles et on en parlait avec une ancienne collègue hier que je rencontrais par hasard qui a eu aussi des problématiques avec ses enfants. Et c'est ce qu'on se disait, c'est qu'effectivement, à trop vouloir, entre guillemets, les sécuriser, les protéger ou autre, certaines fois, ça crée des situations compliquées. Et c'est vrai que moi, je discute beaucoup avec mes enfants et ma fille qui a 20 ans, c'est ce que je lui dis. Je lui dis aujourd'hui, tu peux créer ton avenir. Donc, depuis l'âge de 8 ans, elle veut créer un établissement avec papa. Donc, tu vois, le côté entrepreneur... Mais je lui dis aujourd'hui, entreprends. Avant qu'il y ait ce projet-là, tu peux en avoir d'autres. Tu as 20 ans, là, tu vas travailler, mais tu peux créer aussi ton auto-entreprise pour aller faire différentes choses. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est que tu vas faire des extras. Mais avant, on faisait ça au noir. Maintenant, on est auto-entrepreneur. Mais c'est très bien parce que ça crée le... Oui, ça surprend quand je dis ça, mais c'était ça. C'était une génération...
Tu dis pas ça à côté de moi.
parce qu'il n'y avait pas l'auto-entrepreneuriat. Enfin, ça n'existait pas, hein, le statut. Donc, effectivement, soit tu travaillais et tu étais embauché, soit tu allais travailler au noir. Et puis, voilà. Donc, et moi, je lui dis, bah, crée ta structure à côté, entreprends. Je lui parlais, tu vois, dans le village, si on crée une guinguette, ça va pas nous emmener beaucoup d'investissements, mais ça va être une expérience, ça va être chouette, c'est aussi une expérience. Donc, c'est tout ça, en fait, que je dis, moi, aux jeunes. Et aux plus âgés, je leur dis, aujourd'hui, c'est toute l'expérience que vous avez. Allez-y, foncez, réalisez-vous. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, par contre, c'est toute l'énergie qu'on a besoin de préparer. Et c'est important de se préparer, effectivement, d'intégrer qu'on va devoir sortir de sa zone de confort, parce que c'est aussi ça, hein, l'entrepreneuriat, c'est sortir de sa zone de confort, d'aller sur des terrains où on n'est pas habitué, s'adapter et puis certaines fois, créer de nouvelles opportunités en fonction des rencontres. Parce que moi, j'ai développé du partenariat sportif, par exemple. Après, ceux qui le savent, savent que ça a bien fonctionné. En tout cas, le club que j'ai accompagné ont beaucoup de partenaires, même si j'ai arrêté aujourd'hui. Je suis en train de recréer une structure avec justement une rencontre que j'ai faite. Donc, bientôt, on va pouvoir en discuter aussi.
Trop bien.
Ouais, c'est non, chouette.
De toute façon, on se retrouve l'accompagnement et l'énergie, effectivement.
L'accompagnement, aussi. L'énergie et l'envie, quoi.
L'envie.
Et là, je vais la sortir avant la dernière question. Rien n'est jamais permanent, sauf le changement. Et c'est vrai qu'entreprendre aussi, c'est d'être à l'écoute de toutes les opportunités, de garder une forme d'agilité. Ça, c'est super important. De pas imaginer que voilà, on a dit un point A, un point B. Non, Waze, des fois, quand il y a des bouchons, il te fait passer par des petites routes et on atteint le point B. Et sur les petites routes, on voit des beaux paysages, donc on peut faire des belles rencontres.
Alors, dernière question.
Vas-y.
Quelles évolutions souhaitez-vous voir pour rendre l'entrepreneuriat plus accessible?
Alors, déjà, moi, juste intégrer. Ouais, non, ça, c'est super important. Intégrer et parler aux jeunes que le monde merveilleux des influenceurs, c'est pas la vraie vie, ok? Donc ça, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je veux être patron. Bien, on va t'expliquer, être patron, tu hypothèques ta maison, tu as des crédits par-dessus la tête, tu es en train de regarder tes chiffres tous les mois et que tu vis d'incertitude, que tu dors pas bien toutes les nuits. Donc, voilà. Alors, on veut pas, parce qu'on était très positif sur ce podcast, et si on est là, c'est parce qu'on est tous des entrepreneurs, à chacun son niveau, et en tout cas, on prend du plaisir à faire ce qu'on fait, mais d'avertir aux jeunes que c'est pas donné à tout le monde, que ce n'est pas une fin en soi, et que réussir, ça ne veut pas forcément dire avoir une entreprise, parce que avoir une entreprise, c'est pas forcément gagner beaucoup d'argent. Donc, du coup, après, ben, juste expliquer ça, et que quand on crée une entreprise, il y a une structure, il y a des règles à suivre pour minimiser au max les risques, etc., etc. Et j'en clôturerai sur ça. Clara, elle lève le doigt. Vas-y, vas-y, tu peux.
Je coupe pas, c'est pas poli. En revanche, tu as quand même dit réussir, c'est pas forcément avoir une entreprise, parce qu'avoir une entreprise, c'est pas forcément gagner beaucoup d'argent. Pour moi, réussir, c'est pas forcément gagner beaucoup d'argent. Il y a quand même cette dimension qui est à prendre en compte. Et ben moi, c'est pas du tout pour ça que j'ai créé ma boîte, hein. Par exemple. Je pense que je suis pas la seule du tout dans ce cas-là. Et il me semble que dans les statistiques, la première raison, c'est l'indépendance, justement. Et c'est pas gagner de l'argent. Et je pense que c'est une très bonne chose que ce soit pas le premier levier, parce que si tout le monde veut gagner plein d'argent, on part dans des dimensions de croissance exponentielle.
C'est dans les statistiques des personnes qui ont déjà lancé leur activité. Donc voilà, là, la question, c'était rendre l'entrepreneuriat plus accessible. Voilà, bien, soyons bien vigilants à expliquer aux jeunes les points positifs, les points négatifs.
Et pour moi, c'est pas, enfin, si, c'est qu'aux jeunes, mais en fait, c'est à tout le monde de manière générale. Effectivement, on en discutait tout à l'heure. Je pense qu'il faut vraiment intégrer cette dimension de l'entrepreneuriat, de la gestion de sa vie personnelle. J'entends, c'est quoi une carte vitale, comment ça s'utilise, comment on fait des impôts, enfin, comment on lit une facture. Ça devrait être intégré, en fait, dans les programmes, peut-être pas à la maternelle, mais vous voyez, à partir du collège. Et ça, ça fait partie de ce qui serait bien. Voilà, oui.
Avoir une notion quand même, aujourd'hui, alors, quand j'ai fait partie d'une association, on avait travaillé sur justement l'apprentissage de la gestion financière pour les adolescents. Bah, ça passe par là. C'est-à-dire que déjà, pour créer une entreprise, ce serait déjà bien d'avoir des notions pour savoir, demain, quand tu vas te retrouver dans la vie active, jeune padawan, ce que tu vas avoir comme cursus, qu'est-ce qu'on t'a inculqué, comment tu vas dépenser, est-ce que tu vas avoir une réflexion, en fait. Et il y a plein de petites choses comme ça qui sont déjà importantes. Donc, c'est compliqué de devenir chef d'entreprise quand tu n'as pas déjà ces bases, parce que indirectement, elles sont aussi importantes pour la suite. Et moi, juste par rapport à ce que vous disiez, c'est parce que, bien évidemment, moi, je te rejoins, c'est un tout. C'est-à-dire que pour moi, c'est un équilibre, parce que le sens, oui, mais si tu ne gagnes pas d'argent, à un moment, ça va devenir compliqué. Et bien évidemment, il faut pouvoir s'assumer. Enfin, quand tu es chef d'entreprise, tu assumes qui tu es. Est-ce que tu as envie, entre guillemets, de gagner en fonction de ta fibre, ton ego ou autre, parce qu'il y a plein de choses, hein, qui rentrent en ligne de compte. Et ça, pour moi, c'est important, c'est l'équilibre. Mais effectivement, en tout cas, le côté facilitateur, pour moi, c'est l'administratif aujourd'hui, c'est vraiment un gros frein. C'est peut-être aussi quand on est accompagné. Alors, on a la chance quand même d'avoir des structures qui sont quand même bien faites pour nous accompagner. Et c'est une chance, c'est pas partout. Mais derrière, c'est un méandre d'administratif que tu dois gérer en tant que chef d'entreprise. Et ça, c'est quand même compliqué avec la notion aujourd'hui, effectivement. Alors moi, je suis au carrefour, mais la partie RSE qui est arrivée ces dernières années, c'est aussi le sens qu'on donne à ça, parce que le greenwashing, tout ça. Donc, mais déjà, faciliter la partie administrative.
Et avoir les notions de base. Alors, peut-être pas en comptabilité, mais de rentabilité. Qu'est-ce que c'est la rentabilité d'une entreprise? C'est pas le chiffre que tu encaisses tous les jours. C'est tout, voilà, le seuil de rentabilité, le point mort. Enfin, tout ça, c'est, et le nombre de personnes que je croise qui, cette notion est absolument pas intégrée. Et ça, c'est, et ça, voilà. Donc, ça, je trouve que c'est quand même un conseil de base.
De toute façon, d'une manière générale, je pense qu'il faut, enfin, là, j'ai participé à la nuit de l'orientation à Chartres au mois de novembre. Et en face de moi, bon, parler de responsabilité sociétale des entreprises à des collégiens, ça marche pas bien, parce qu'ils connaissent pas le monde de l'entreprise, donc très clairement. Je me suis fait un bon copain de stand à côté, mais à part ça. Et en fait, on leur demande déjà à ce moment-là de choisir leur voie, le domaine dans lequel ils veulent travailler et autres. Alors que je pense qu'ils savent déjà même pas quels emplois existent, tout simplement. Et en fait, j'ai l'impression que ils mettent un peu on leur fait mettre la charrue avant les bœufs, au lieu de leur expliquer, bah voilà, déjà, dans le monde du travail, vous pouvez être indépendant, vous pouvez être patron, monter une structure avec des salariés, en fonction de comment ça marche. Vous pouvez être salarié et en fait leur montrer un peu tous les choix qui existent et bah quel profil, enfin ça existe des tests de personnalité pour savoir vers quoi tu peux partir aussi.
Ils en font au collège.
Hein,
ils en font, ça y est. Ouais, ils en font au collège. Enfin, moi, à l'époque de mes filles qui étaient au collège, elles en faisaient, ouais.
Ah bah, ouais, nous non.
Ouais. Ouais, elles en faisaient, ouais.
Non, moi non plus. Ouh là là.
Ils en font. Alors moi, j'ai ma meilleure amie qui est conseillère d'orientation, psychologue, et du coup, effectivement, ils en font. Enfin, il y a un plus gros travail que nous, notre génération, parce que effectivement.
Bah, pour essayer de comprendre un peu l'environnement, l'écosystème, quoi.
Après, l'avantage aujourd'hui, je pense qu'on tend un peu plus quand j'y vais un modèle anglo-saxon, c'est-à-dire qu'on a la chance quand même de pouvoir reprendre facilement, plus facilement qu'avant, des études, de pouvoir plus facilement se réorienter. Et ça, c'est une chance. Donc, à un moment, c'est facilitateur. Et c'est là où on devrait peut-être poser l'accent sur les jeunes, parce que moi, je le vois, la génération de ma fille, la grande, et puis la petite qui a 14 ans, effectivement, la grande, c'était facile, elle savait ce qu'elle voulait faire. Mais quand je parle avec mes amis qui ont des grands comme...
Mais c'est assez rare, hein.
Oui, c'est rare. Ouais, c'est très rare. C'est-à-dire que eux, justement, ils étaient confrontés à des difficultés parce que les enfants savaient pas, parce que ça crée de l'échec scolaire arrivé au moment de la terminale parce qu'ils savaient pas ce qu'ils allaient faire après. Et moi, c'est ce que je disais par contre à la petite, tant que tu sais pas, déjà travaille bien à l'école. Et puis voilà, après c'est bête à dire, mais déjà quand t'as le bac, tu peux rebondir sur différentes formations. L'accès aux formations est beaucoup plus simple qu'avant. Il y a plein de modèles de formation. On est ici chez Formaflow, donc qu'on est l'exemple sur l'adaptabilité. Donc, je pense que c'est aussi les rassurer parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est pour eux plus compliqué. Avant, tu faisais partie d'une famille de pharmaciens, tu allais être dans la médecine, ingénieur ou autre. Et c'est vrai que bah, là, pour le coup, tout est plus ouvert, mais ça crée pas mal d'incertitudes, de questionnements. Et je pense qu'il faut aussi les rassurer en disant bah, que tu saches pas, c'est pas grave en fait.
Non. Ouais, et c'est puis ça, la vie, c'est fait pour prendre plein de voies. Il n'y a pas une voie définie, il n'y a plus de voie définie. Ouais, enfin, voilà,
bon. Aujourd'hui, ça fait l'objet aussi d'un podcast précédent. Aujourd'hui, les passerelles. On évoquait des passerelles, moi qui n'existais pas du tout à mon âge. Enfin, j'allais dire à mon époque, ça fait... Non, mais quand moi, j'étais à l'école, il n'y avait pas de passerelle. Soit tu faisais du technique, soit tu faisais du général, et soit après, tu allais en fac, et soit tu... Enfin, voyager à l'étranger, Erasmus, ça n'existait pas. Donc, aujourd'hui, il y a plein de passerelles. Donc, voilà, plein de dispositifs. Et donc, si on pouvait un peu conclure sur le sujet... C'est qu'aujourd'hui, il faut que nos jeunes écoutent ces podcasts.
Oui.
Nous, on organise des cafés-débats. Il faut que les générations se parlent entre elles. Et là, je regarde Daniel, on revient dans l'humain, dans le réseau, dans l'échange. Et il faut apprendre, il faut se parler. Il faut se parler.
Et s'écouter.
Il faut se parler. Et s'écouter.
Et être tolérant et comprendre.
Non, parce que tu te nourris des autres. Enfin, moi, j'étais restaurateur, donc en discutant avec des clients certaines fois qui avaient des parcours ou autres, bah, ça te nourrit, tu te nourris des expériences. Le réseau, tu rencontres des personnes, comme je disais tout à l'heure, mais tu rencontres aussi des jeunes qui ont 20 ans, qui ont créé, bah, comme Nicolas, qui a créé sa structure qui est assureur, qui cartonne, ça fait 4 ans qu'il fait ça, voilà.
Il ouvre encore.
C'est ça, donc qui se développe et tu te nourris en fait des personnes que tu rencontres parce que tu sais faire la part des choses aussi parce que faut faire attention. Dans les réseaux aussi, tu peux avoir des imposteurs, tu peux avoir aussi des réseaux où il y a beaucoup d'ego et c'est de savoir où on va. Alors. Moi, je prêche pas que pour Dynama et qu'on soit très clair. Ce que j'ai toujours aux personnes, c'est aller où vous sentez bien. Mais ce qui est important, c'est de faire attention justement à tout ça parce que si tu vas, t'es pas très sûr de toi, tu vas sur un réseau où il y a trop d'ego, où il y a voilà, bah, tu vas te sentir petit, tu vas te sentir encore plus petit, tu vas te dire ah bah non, j'ai pas d'utilité. Tu vois, c'est tout ça en fait qui est important et c'est, je pense que pour un entrepreneur, c'est aussi de savoir s'écouter. Voilà, on a aussi des bonnes intuitions et ça c'est de l'écouter je pense aussi.
Tu veux conclure
le mot de la fin, Clara?
C'était pas prévu ça. Non, je ah bon, d'une part ça fait plaisir de toujours rencontrer des entrepreneurs hein, quand même. Ouais. C'est toujours des parcours de vie super intéressants, donc je suis contente d'être là. Mais non, honnêtement, quand on veut entreprendre, je pense que la base c'est de croire en son projet, mais de le travailler quand même. Il faut le challenger non-stop, et c'est à ça que ça sert, les accompagnements. Enfin, comme tu disais, il faut se faire accompagner de A à Z, et voilà, quoi.
Okay. Bon, ben, c'était super. Merci.
Oui, merci à vous deux.
Merci à vous deux.
J'espère que ça vous a plu.
Ouais. On aura l'occasion certainement de reparler de tout ça, parce qu'il y a plein de choses dans les tuyaux. On rappelle le 12 ?
Le 12 juin, oui.
Ouais.
Notre after work qui a lieu à Dreux au hangar, où on va fêter les 1 an du podcast. Donc, on sait que tous les deux, vous serez là, mais voilà. Merci encore.
On sera entouré de toutes les personnes avec qui on a partagé toutes ces heures d'enregistrement. Entre autres.
Ouais.
Il faut tout écouter d'ici là.
Bien sûr, bah là, je m'y suis attelé.
Ouais, on va faire des quiz, attention. Hein. Attention. Donc, merci mille fois. Mmh. Et puis, donc, le mot de la fin, c'est écouter, liker et partager.
Oui. À bientôt.
Au revoir.